matin, il y a 15 jours, transporté en esprit, et j'ai vu le Seigneur, et j'ai vu le Seigneur pleurer. Et j'étais très, très surpris de voir le Seigneur pleurer, et j'ai osé lui poser la question, mais pourquoi tu pleures ? Et le Seigneur m'a dit, mais je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne sur la brèche pour intercéder pour le pays. Je crois que, là encore, comme je suis profondément convaincu de cela, c'est qu'aujourd'hui, nous expliquons tout. Tout passe par la science, tout passe par le rationnel, il faut tout expliquer. Et disons, tous les problèmes géographiques, climatiques que l'on peut rencontrer, ou géologiques que l'on peut rencontrer, on dit oui, mais ça c'est dû à ça, ça c'est dû à ça, ça c'est dû à ça. Alors que bien souvent dans la parole, nous disons que la terre a tremblé, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, qu'il y a même eu des sauterelles qui sont venues bouffer tout ce qui se trouvait dans le coin. Ça nous surprend pas, on dit ça, c'est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, quand il y a 15 jours, vous étiez sous l'eau, ou presque, et j'ai beaucoup pensé à vous, je pensais surtout à André avec son terrain pentu, là j'ai dit il n'aurait bientôt plus rien à voir, toute la terre est en bas. Et voilà, c'est ce que le Seigneur me disait, mais comprenons que les faits climatiques qui se passent aujourd'hui, ce n'est pas forcément que des choses rationnelles. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de tout. Hein, vous vous souvenez, ça a commencé par la ville de Nantes où ça a beaucoup bougé. Et chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est à Nantes que ça chauffe le plus. Je vous rappelle que Nantes était un port de négriers, un pôle d'esclavage. Et alors on parle toujours du jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, s'il y a un dernier, il y a un premier, puis il y a les autres. Et on ne peut pas forcément imaginer que Dieu commence à juger. Mais moi, je vous dis que Dieu commence à juger. Et si nous voulons le réveil, ce à quoi nous aspirons les uns et les autres, et c'est ce que Dieu me rappelait tout à l'heure pendant la louange, hein, il m'a ramené sur la parabole des 10 vierges. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas la lire. Hein, 5 qui avaient de l'huile et 5 qui étaient en panne sèche. Et les 5 qui étaient en panne sèche sont partis en chercher. Et quand ils sont arrivés, bonnet bas et balles de crin, c'était trop tard. Les autres étaient rentrés et c'était cuit. Et le Seigneur m'a rappelé simplement que nous qui sommes des hommes et des femmes qui voulons marcher par l'esprit, qui voulons vraiment être des hommes et des femmes spirituels, nous devons toujours être dans cette, dans l'alimentation, si j'ose m'exprimer ainsi, de nos lampes. C'est-à-dire être toujours et rester en communion avec le Saint-Esprit et savoir, comme l'a dit Jésus, Jésus disait aux pharisiens, vous savez discerner les temps, vous savez discerner le ciel est rouge, etc. Mais vous ne savez pas discerner spirituellement. Et je crois que c'est aussi le reproche que Dieu nous fait aujourd'hui. Alors c'est que quand je parle de reproche, c'est pas un Dieu fouettard, on n'en est pas là. Mais simplement Dieu nous dit, mais soyez attentifs, ouvrez vos yeux. Demandons au Seigneur de mettre du collyre sur nos yeux afin que nous puissions voir comme lui voit. Et que nous soyons en harmonie avec lui. J'oserais dire que le ciel soit en harmonie avec la terre. Soit en harmonie avec la terre. Et que la terre soit aussi en harmonie avec le ciel. Afin que nous puissions être ces sentinelles auxquelles le Seigneur aspire. Amen. Voilà. Et maintenant, nous allons partager la parole. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, peut-être au moins une fois, si ma femme était là, elle le confirmerait, parce que c'est souvent ce qu'elle me dit. J'ai été élevé entre deux pages de Bible. Je suis né là-dedans. Je suis comme Obélix, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Il y a encore des choses à voir, mais... Et c'est vrai que de toute ma vie, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai vécu dans plein de campagnes d'évangélisation, j'ai fait plein de camps de la Ligue, etc. J'ai entendu des tas de prédicateurs, il y a plein de, on va dire, des grosses pointures, comme on disait à l'époque, qui venaient chez mes parents, etc. Et je me suis rendu compte que tous ces gens qui prêchaient, et j'ai certainement fait partie de ces gens-là aussi, ont mis des standards très hauts pour la vie chrétienne. Si tu veux vraiment suivre Jésus, il faut. Et on nous a mis une barre extrêmement haute. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que les trois quarts du temps, on passait sous la barre, mais jamais sur la barre. Et en passant sous la barre aussi, on était hyper culpabilisé en disant « je ne suis pas digne ». C'est terrible, hein ? et on se trimballe des tas de casseroles de culpabilité en disant « je ne suis pas digne ». Et avec toutes les casseroles les uns les autres que nous avons, on peut racheter la Samaritaine et en faire une quincaillerie. Et c'est terrible. C'est terrible parce que il me semble que les choses sont tout à fait différentes. On a un regard humain sur notre vie chrétienne et sur les aspirations de Dieu. Alors moi, je connais un homme qui, sur le plan personnel, a été mis à l'écart, qui, sur le plan familial, a eu 19 enfants, et il a connu des incestes et des trahisons. Professionnellement, il a vécu un coup d'État. Socialement, il a vécu une mutinerie. Et sur le plan moral, il a commis l'adultère et le meurtre. Et cet homme, je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit de David. Et pourtant, c'est quand même terrible, terrible si on peut dire. C'est là qu'on voit que nos standards ne sont pas du tout les standards de Dieu. Et que le regard de Dieu n'est pas forcément notre regard. Parce que si je lis le livre des Actes à partir du verset 22, je lis ceci. Puis l'ayant rejeté, il parle de Saül. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça nous laisse pantois. C'est exactement pareil quand on lit Genèse 26, où Dieu s'adresse à Isaac et qui dit « Ton père qui a toujours été intègre dans mes voies ». Wow ! On n'a pas le même Larousse. Hein ? Que je sache, Abraham, il a envoyé sa femme deux fois à la prostitution pour avoir la vie sauve. C'est choquant. Et Dieu ose dire « Ton père qui a toujours été intègre devant moi ». Et c'est ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est que la Bible n'est pas un bouquin bisounours. Si vous voulez voir des fils qui ont bourré leur père, lisez la Bible. Noé et ses fils. Une fille qui s'est transformée en prostituée pour aller coucher avec son beau-père, lisez la Bible. Si vous voulez voir des filles qui ont saoulé leur père pour coucher avec et avoir une descendance, lisez la Bible. Waouh ! C'est terrible ce bouquin. Et c'est la réalité humaine. C'est la réalité humaine. Et pourquoi ? Parce que là encore, nous avons un regard complètement faussé sur ce que Dieu nous dit. Si vous prenez dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, c'est un texte, j'oserais dire, fracassant. Où Jésus nous dit au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et la suite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et que votre fruit demeure. Dieu jette un regard sur chacun de nous. Et le regard que Dieu jette sur chacun de nous, jette ou plutôt pose, parce que jette ça fait un petit peu désinvolte, alors on va dire que le Seigneur pose ce regard sur nous, c'est un regard d'approbation. C'est un regard d'amour. Ce n'est pas un regard de jugement. Même si, vous vous souvenez ce que dira Marie, la mère de Jésus, il a posé ses yeux sur la bassesse de sa servante. Mais c'est un regard positif, c'est un regard d'encouragement. Quand l'ange Gabriel vient la voir, il lui dit « Toi à qui une grâce a été faite, sortons de notre culture, en pensant que c'est avec nos mérites qu'on va faire quelque chose. Vous pouvez jeûner jusqu'à devenir épais comme mon petit doigt, ça risque de rien changer. Pourquoi ? Parce que tout dépend de Dieu. C'est moi qui vous ai choisi. Et non seulement je vous ai choisi, mais je vous ai établi. Waouh ! Et ça veut dire quoi ? Je vous ai établi. Souvenez-vous dans Exode chapitre 3, quand Moïse se retrouve devant le buisson ardent. Et Moïse est vachement heureux, parce qu'enfin Dieu a entendu la prière de son peuple. Là où il est moins content, c'est quand Dieu lui dit, c'est toi qui vas y aller. Et là, il trouve toutes les excuses possibles et imaginables. Et là, on y ressemble vachement. Hein. En chacun de nous, il y a un Moïse qui sommeille. Hein. On est vachement content quand Dieu dit, Seigneur, donne-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et quand Dieu vous le montre, Dieu, mais Seigneur, j'ai ça. Puis alors la liste est longue comme le bras. Et la question que pose Moïse, c'est de dire, mais qui dois-je annoncer ? Tu leur diras, je suis, m'est apparu. Et c'est là-dessus, mes bien-aimés, que nous sommes fondés. C'est là-dessus que nous sommes établis. Nous sommes établis sur le je suis. Sur le je suis en qui il n'y a aucune ombre de variation. Hein ? Comme je dis toujours, si on devait dessiner Dieu, c'est une ligne droite. Hein, il n'y a pas de... c'est pas comme un encéphalo, là, où éventuellement ça peut bouger dans tous les sens. Non, non, Dieu est une ligne droite. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Et c'est vrai que quand on y réfléchit mentalement, c'est dur. C'est dur à comprendre. Que ce Dieu-là soit constant comme il est constant. Qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Qu'il nous aime malgré tout. Ce n'est pas toujours évident à comprendre, hein, et pourtant c'est la réalité. Et c'est sur ce « je suis » que notre foi doit être basée. Ce n'est pas sur nos sentiments, ce n'est pas sur ce qu'on ressent. Nous les charismatiques, charismaniaques, charistatiques, nous sommes très forts pour chercher l'émotionnel. On est toujours en train de chercher l'émotionnel. Ah, je sens Dieu. Mais il se lave, il est propre et il ne sent pas. On sent Dieu, il faut toujours sentir Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Point. Pas besoin de ressentir. Est-ce que tu es là ou est-ce que tu n'es pas là ? Il ne joue pas à cache-cache. Hein ? Il est là. Il est là. Parce que nous sommes fondés sur ce « je suis ». C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a établis, c'est lui qui nous a choisis. Vous vous souvenez dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 et 12, quand Dieu dit à Samuel, tu vas aller chez Isaïe, prends ta fiole d'huile et tu vas aller consacrer le nouveau roi d'Israël parce que j'ai rejeté Saül. Et quand Isaïe... du moins, quand Samuel arrive chez Isaïe, il voit plein de fils qui ont fait du bodybuilding. Hein ? Des armoires à glace, des grands costauds, machin. Et puis, Samuel lui-même dit, assurément, le roi d'Israël est ici. Tout faux. Et il les a tous passés en revue. Et l'Éternel disait, non, pas celui-là. Alors attends, tu me fais monter là pour me dire qu'il n'est pas là. Un truc là. Et c'est là que Samuel pose la question à Isaïe. Tiens, il n'y en a pas encore un autre ? Si, mais il est là-bas, c'est le plus petit, il garde des brebis. Bon. Et puis on comprendra aussi, peut-être pourquoi David était mis de côté. Souvenez-vous le psaume 51. Quand il est écrit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relation sexuelle est un péché ? Non, ça je ne le crois pas. La Bible dit le contraire. Ça veut dire que peut-être Madame Isaïe, elle a eu une faiblesse. Et que tout David qui soit, il a été mis de côté. C'était un enfant blond et de belle figure, nous dit la parole. Mais il était né. Et là-bas, avec les brebis. Et Samuel dit, appelle-le et fais-le venir. Et quand il arrive, l'Éternel dit, c'est lui, le roi d'Israël. Et tu peux loin. Pourquoi ? Parce que Dieu regarde au cœur. Vous pouvez faire des pompes toute la sainte journée, ça ne servira à rien. Avoir des abdos comme des tablettes de chocolat, ça ne servira à rien. Regardez-moi. Mais je console mon épouse Isabelle en disant toujours, chérie, tant que tu as les bras assez longs pour faire le tour, pas de souci. Ça ne la console pas toujours d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Et oui, Dieu regarde au cœur. Et l'appel que Dieu a mis sur David, il ne le retirera jamais. C'est pour ça que, c'est hier je crois que j'en parlais, hein, faisons un chouïa d'herméneutique et arrêtez de me balancer la parole de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Purée, on n'est pas des musulmans, on n'est pas des fatalistes. C'est quoi cette parole ? Relisez tout Job et faites un peu d'herméneutique. Et ce n'est pas une parole de Dieu. C'est une parole qui sort de la bouche de Job, tout simplement parce qu'il n'a pas rencontré Dieu. Il va le rencontrer plus tard. Quand il dira, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et ça change tout. Et je suis toujours atterré, même dans ce chant que l'on chante. Et je sais que ce chant, comment ce chant a été composé. Et je comprends la tristesse des parents qui l'ont composé. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Où vous avez vu dans la parole que Dieu se repent des dons qu'il donne ? Question, pas de réponse, merci. Parce qu'il n'y en a pas. Dieu dit, je ne me repens jamais des dons que je donne. Alors, pourquoi subitement il faudrait bénir le Seigneur ? Qu'est-ce que c'est ce Dieu qui vous donne quelque chose, qui se réjouit aussi de vous le reprendre ? Mais il est maso, machin. Vous avez vu, on appelle ça un père. Un père qui veut faire souffrir ses enfants. Wouh ! Et je suis bien placé pour parler comme ça. Puisque ma chère maman, qui n'est plus de ce monde, il faut dire que si elle était de ce monde, elle aurait 100 ans. Elle a perdu 3 enfants. Et j'ai jamais vu mes parents se rebeller contre Dieu et jamais dire que l'Éternel soit béni parce qu'il nous a pris. Non. Ils ont vécu de la tristesse, ils ont vécu des choses. Mais ils n'en ont jamais voulu à Dieu. Il n'y a jamais eu de révolte. Mais simplement, arrêtons de nous balancer des trucs pareils parce que ça nous arrange et on fait dire à la Bible n'importe quoi. Et en tout cas, tout ce qui ne peut éventuellement nous arranger. Donc, arrêtons avec ça. Donc, David a été choisi. Et non seulement il a été choisi, mais on voit aussi que ses frères le rejettent. Hein. Vous vous souvenez, lorsqu'il descend porter des sandwichs alors que ses frères sont prêts à combattre les Philistins. Ses frères le rejettent en disant, qu'est-ce que tu viens faire là ? Tu viens encore te montrer, toi le petit tout là, le chef des orgueilleux. Il dit, mais attendez, ça vous gêne que je sois là ? Je viens vous porter à manger et encore vous râler comme des poules ? C'est quoi ce truc ? Et à ce moment-là, il y a celui que moi j'appelle, mais ça c'est mon expression à moi, le quincaillier, c'est-à-dire il était plein de ferraille là. Il mesurait 3 mètres, on l'appelait Goliath, et il était plein de ferraille. Alors moi je l'appelle le quincaillier, ça me fait plaisir. Et il vient les défier, et tout le monde, dès qu'il sort, tout le monde fait fût de fuseau, là, tout le monde s'en va. Et David reste, il dit, mais vous avez peur de lui, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien sûr, tout le monde lui dit, mais tu ne rends pas compte. Hein ? Alors ses frères le rejettent, une fois de plus, alors il va voir quelqu'un d'autre, il lui pose les mêmes questions, il dit, voilà. Le roi a dit que si quelqu'un arrivait à tomber ce grand-là, il donnerait sa fille en mariage. Pourquoi pas ? Et c'est ce qui se passe. Alors bien sûr, dès qu'on trouve quelqu'un qui a un peu de bonne volonté, on l'amène au roi. Et vous vous souvenez de ce texte qui est... Relisez-le. Ça vaut vraiment le coup, parce que dès qu'on l'amène au roi, le roi lui dit c'est super, et il lui met sa cuirasse. Et David regarde Saül en disant, excuse-moi, mais c'est pas carnaval. Je n'avais pas à me déguiser parce que je n'arrivais pas à marcher avec ce truc-là. Moi, je n'ai pas l'habitude. Et il dit, mais moi, j'irai. J'irai le combattre avec mes armes. Un, je marche au nom de l'Éternel. Et deux, lorsque j'étais et que je gardais les troupeaux de mon père, lorsque l'ours et le lion venaient, je les prenais, je les déchirais. Et là, mes amis, il y a un message fort pour chacun d'entre nous. Nous avons vécu des tas d'expériences, même avant de rencontrer Jésus. Et souvent, ce qui m'attriste dans les témoignages, lorsque j'entends certains témoignages de grands balèzes tatoués jusqu'au bout des doigts, qui disent, voilà, avant, je cassais tout, j'étais un bulldozer. Et le jour où je me suis converti subitement, alors que j'ai rencontré l'incarnation, je me suis complètement désincarné. Bienvenue à l'église des mollusques ou des invertébrés. Et ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Ça veut dire que Dieu s'est planté sur son ordinateur? Il y a eu comme un léger bug. Ah non. Que nous dit la parole? Que Dieu nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc, réjouissons-nous. Qui que nous soyons, peu importe ce que nous avons fait, hein, comme je dis toujours, que nous soyons en accident de pilule ou de préservatif, peu importe, sans nous, le plan de Dieu ne serait pas complet. Ça, c'est une réalité. Et toutes les expériences que David avait faites avec l'ours et avec le lion, il était aujourd'hui capable de prendre une fronde et d'aller démater le quincailler. Il n'avait pas peur. Il avait été formé pour ça. Nous sommes décloisonnés. Des gens cloisonnés, pas des décloisonnés. Nous sommes décloisonnés. Dans le sens que chaque expérience que nous faisons, voilà, on a fait une expérience, c'est bien. On va en faire une autre, c'est bien. On en fait une autre, c'est bien. Est-ce qu'on peut voir dans ces expériences la lignée de Dieu, la ligne de Dieu, Dieu qui nous forme, qui nous prépare tout simplement à accomplir ce pourquoi il nous a appelés. J'aimerais simplement que si vous reteniez quelque chose, reteniez cela. Vos expériences de passé, quelles qu'elles soient. Je sais que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que les choses anciennes sont passées. Certes. Amen. Mais elles sont là simplement pour nous servir pour la suite. Nous avons été formés pour la suite. Seulement, des fois, on ne comprend pas parce qu'on a un appel. Et ça me faisait rappeler ça hier quand j'étais dans la salle en bas avec la monitrice. Enfin, elle n'était pas là, mais ce que la monitrice a mis sur les murs par rapport à Joseph. Quand on pense à Joseph, on dit, ouais, il est devenu premier ministre de l'Égypte. Yes. Il a été appelé par Dieu. Yes. Et entre l'appel et l'accomplissement, il y a eu un sacré désert. Hein. Merci, Madame Potiphar. Merci pour les cachots. Eh, mes amis, un appel et l'accomplissement de l'appel. Et ça, c'est une loi spirituelle. Entre l'appel et l'accomplissement, il y a toujours un désert. Pourquoi? Parce que Dieu veut simplement nous former. Dieu veut simplement nous mettre à l'épreuve. Dieu veut simplement fortifier notre foi. C'est vrai qu'il y a des choses que, sur le coup, quand on les vit, ça coince. On se dit, mais pourquoi? Ah, vous pouvez poser tous les points d'interrogation, les retourner en porte-manteau, ça ne servira à rien. Vous pouvez poser tous les pourquoi. Sachez une chose, c'est que Dieu nous forme. Dès que j'ai, après ma conversion, lorsque certaines choses commençaient à bouger, et que j'avais des conflits, des choses comme ça, je me disais, je dois être vachement important pour que Dieu s'occupe de moi. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. En tout cas, je ne pense pas. mais seulement de me dire, ouais, et nous sommes les uns et les autres des gens très importants. Rendez compte qu'il nous aime et qu'il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Ça va, oui? On n'est pas n'importe quoi, on n'est pas du gros tas. Il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Alors ça nous invite aussi à relever la tête, de dire je suis quelqu'un. Ok, vous êtes qui vous êtes, vous vivez ce que vous vivez, avec des fois vos culpabilités, vos péchés, vos machins. Mais Dieu vous regarde d'un œil favorable. Dieu vous regarde dans sa grâce. Et il n'est pas là pour vous écraser. Tu as encore fait. Non, non. Et David va... J'aime aussi ce texte avec Goliath où on voit David aller affronter ce géant en prenant simplement... Et là, la Bible est aussi... La Bible est inspirée, vous le savez. Mais chaque chose sont importantes. La Bible nous dit qu'il prend sa fronde et qu'il descend au torrent et qu'il prend 5 pierres. Et 5 en hébreu, c'est le chiffre de la grâce. Il va puiser dans la grâce pour aller démater le grand. Et comme le dirait Louis de Funès, là, je tombe. Et il s'est couché face contre terre. Il lui a coupé la tête. Et oui, Dieu l'a appelé. Les expériences du passé, c'est pour le présent. C'est pour me fortifier dans le présent. Et ce n'est pas qu'on doit cajoler son passé, mais se dire, oui, il y a certaines choses que j'ai vécues qui peuvent me servir. Même si on ne comprend pas tout. Il y a des tas de choses dans ma vie que je n'ai pas compris quand je les ai vécues. Au contraire, j'avais tendance à, hein, comme les chevaux, là, à gratter avec des sabots, à gratter le sol. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses que je comprends. Quand Dieu m'a appelé, nous a appelés, en famille, pendant 8 ans, à vivre par la foi, à ne dépendre que de lui. Je n'ai pas compris. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça, mais je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je sais. Dieu voulait que j'apprenne, ça dépend de la dépendance de lui, pour gérer ce que je gère aujourd'hui. Les 4 sociétés que je gère, sinon je ne saurais pas dépendre de Dieu. J'ai appris la dépendance aussi par ces choses-là. Et puis, ça nous rappelle que seulement notre destinée ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. Il a vécu des conflits avec Absalom. Vous savez, quand son fils s'est révolté contre lui. Et ce texte est aussi très impressionnant. On le trouve dans 2 Samuel 16, ça doit être marqué quelque part. Dans 2 Samuel 16, c'est impressionnant ce que dit David à ce niveau-là. Alors, Abishai, fils de Tserruya, dit au roi, pourquoi ce chien mort, il parle d'Absalom, maudit-il le roi monseigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Des super intentions. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserruya? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, on veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David est un homme qui est capable de se remettre en question. C'est un homme qui est capable de se rendre vulnérable et qui est capable vraiment, devant Dieu, de se remettre en question. Et je crois, mes amis, que notre force devant Dieu et avec Dieu, c'est aussi d'être capable de se remettre en question, de ne jamais considérer les choses pour acquises. Hein ? Nous avons tendance à penser que, ok, c'est comme ça, nous sommes sur des rails et nous allons. Osons-nous nous remettre en question ? Je suis convaincu, et je le dis souvent, que la vulnérabilité est une force et non pas une faiblesse. Plus je suis vulnérable, plus je suis fort. Pourquoi ? Parce que plus je me sens vulnérable, plus je peux aller partager avec mes amis. Pas avec n'importe qui. Hein. Ma vie n'est pas un tas de pâtes qu'on promène sous un rouleau à pâtisserie pour l'étendre de partout. J'ai rien d'une pâte feuilletée. Mais j'ai la joie d'avoir un couple d'amis. Nous avons, Isabelle et moi, la joie d'avoir un couple d'amis qui nous sont nos intimes et avec qui nous pouvons tout partager. Et ça, c'est une force de pouvoir prier ensemble. Et on passe des heures à prier ensemble. Et quelle force, mais quelle bénédiction. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement cette écoute. Et moi, je vous invite, et je suis convaincu parce que Dieu me l'a dit il y a quelques années, nous sommes une génération orpheline. Nous avons besoin de père, nous avons besoin de mère. Nous avons besoin de vis-à-vis. C'est pour ça aussi que j'aime RNC. Parce que même les églises ont un vis-à-vis, les pasteurs ont un vis-à-vis. Enfin, eux, ils en ont eu pléthore. Hein. Eux, c'est les plus gâtés de la bande. Entre le Canada et le reste. Mais bon, comme dit l'Évangile, c'est vous qui m'avez choisi. Et oui, et ça, c'est hyper, pour moi, c'est hyper important. D'avoir de se rendre vulnérable. Je suis ça. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Dieu jette sur nous un regard favorable. Il n'y a pas de culpabilité. C'est nous qui nous mettons la culpabilité, comme je disais dans l'introduction, parce qu'on nous a mis un standard tellement haut. Puis vous connaissez la suite de David. Séduction, intimidation, aveuglement. Il n'avait rien à faire là où il était, ce fameux soir de printemps, alors que tous les rois étaient en campagne, lui il est resté là. Déjà là, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et vous connaissez la suite. Bathsheba, il couche avec, il fait tuer Uri. Et puis il y a Nathan qui vient le voir. Et c'est là qu'on voit que le péché dans lequel on peut persister nous aveugle. Parce que lorsque Nathan vient le voir, il lui donne la parabole, ce que moi j'appelle la parabole des deux brebis, hein. Le riche et le pauvre, celui qui avait une brebis qui mangeait à sa table. J'en suis pas encore là, même si j'aime beaucoup mes brebis que j'ai à la maison, mais elles mangent pas encore à ma table. J'en ai pas envie, mais je pense que ma femme m'enlèverait de là aussi. Et puis il y a ce riche qui avait un troupeau. Et Nathan rentre, et David rentre dans une colère noire en disant « Cet homme mérite la mort !» Et Nathan de le remettre en ligne et dire « Mais tu es cet homme-là » Comme quoi le péché dans lequel nous pouvons persister nous conduit dans la séduction, ensuite dans l'intimidation. Pourquoi intimidation? Parce que bien souvent, quand on a péché, on se dit, mais à qui je peux le partager? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est toujours le regard des autres qui va peser sur moi. Et on a horreur de ce regard. Mais comme disait André Andoul, un de mes professeurs, qui disait toujours, mais je vous rappelle, bien-aimé, que nous sommes de la même pâte. Et que ok, seulement nous faisons, là aussi c'est notre culture, nous avons tendance à faire une gradation dans le péché. Hein? L'adultère, c'est affreux. Ciel. Tuer, c'est terrible. Mais mal déclarer ses impôts, c'est normal. L'État nous envole tellement. On peut bien lui en prendre un peu. Et où est le problème? Travailler au noir, c'est pas un problème ça. Que dit la parole de Dieu? Tu dois être soumis aux autorités. Donc, si tu travailles au black, tu n'es pas soumis aux autorités. Et n'attends pas la bénédiction. Tu n'auras pas la bénédiction. Parce que l'obéissance précède la bénédiction. Mais l'obéissance ne suit pas. La bénédiction ne précède pas l'obéissance. Si vous pensez ça... Tout faux. Tu es cet homme-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que David a écrit le psaume 32. Il s'est passé que David a écrit le psaume 51. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est ce qui fait et ce qui a toujours fait la force de David. C'est un homme qui a toujours su se repentir. Ça ne l'a pas empêché de faire des âneries et des grosses à nos regards à nous. Mais il a su se repentir. Et c'est ce qui nous sommes appelés à être et à vivre. Des hommes et des femmes qui vivent dans la repentance. Je ne dis pas de faire en permanence carpette. Mais acceptons. Et plutôt que de juger, nous avons tellement tendance à juger. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour... On est plus grand que Dieu? Dieu pardonne. Que dit la parole dans Romains chapitre 5, verset 20? Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais attention, l'apôtre Paul connaît bien le genre humain. Il dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde, loin de là. Nous sommes appelés à vivre de cette grâce. Nous sommes appelés à vivre sous le regard de Dieu. Donc c'est pour cela que si vous êtes venu ce matin avec un poids de culpabilité énorme en disant « mais je ne suis pas digne, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela », sachez, bien-aimés, que Dieu vous regarde d'un œil favorable. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça n'empêche pas que vous deviez, que nous sommes les uns et les autres, moi en tête, appelés à nous repentir. Mais Dieu nous regarde d'un œil favorable. Il a posé son œil sur chacun d'entre nous. Et son œil est un regard bienveillant. Ça fait du bien, hein? Mais c'est la réalité. Alors arrêtons de soit d'être courbés en permanence, soit de dire « je n'y arriverai pas ». Marche à ton rythme. Marche au pas de Dieu. Dieu n'a jamais fait de nous des sprinteurs. Dieu a fait de nous des marathoniens. Des gens qui vont aller loin. Et en général, quelqu'un tout seul va beaucoup plus vite. Mais un groupe de personnes va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a l'Église. Vous savez, je suis fatigué d'entendre des gens qui me disent « Oui, mais moi, avec mon Dieu, ça me rappelle. » Au début de mon ministère, une paroissienne qui venait plus au culte le dimanche, quand j'étais à la voir une fois, elle me dit « Oh, tu sais, moi, le dimanche matin, je reste avec mon Jésus. Hein » J'ai dit « Ouais, d'accord. » Pendant ce temps, à l'Église, on fait du tricot, c'est sympa, merci. Et ouais. Mais c'est, on devient, même dans le corps de Christ, dans la relation avec Dieu, on devient hyper individualiste. Mon Dieu, mon Seigneur. Oh, tu peux pas le partager un peu? Ainsi à moi, à moi, à moi, à moi. Et le corps, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait du corps? Et ça, c'est hyper important. Vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et nous ne sommes pas des individus. C'est clair que le salut est individuel, ça je suis d'accord. Mais pourquoi ce salut? C'est pour nous ramener, pour nous amener au corps. C'est pour que nous soyons les uns et les autres unis dans un même esprit. Même si nous avons des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes choses. Il y a des gens qui ne lèvent pas les mains. Et alors, c'est grave docteur? Il y a des gens qui ne vont pas danser. Et alors, moi, je sors d'un milieu où c'était très austère, le milieu réformé. Il y a des fois où la joie était très profonde. Hein. Et comme le culte durait 59 minutes et 60 secondes, elle n'avait pas le temps de sortir. Mais ces gens aimaient Jésus. Et ces gens aiment Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ont une expression de foi différente de la nôtre qu'on va commencer à les condamner. C'est le corps de Christ. Et là-haut, si on y va, c'est un problème eschatologique, donc on va le mettre de côté. Le jour où on sera ensemble dans l'éternité, on sera ensemble dans l'éternité. Et si vous ne supportez pas les catholiques, peut-être qu'au repas des noces de l'agneau, Dieu, pour vous allumer, va vous mettre à côté d'un cateau. Yes! Eh ouais! Moi, je rigole quand je pense à ça. Je me dis, il va nous faire un truc terrible. C'est pour ça qu'il était vachement important d'être réconciliés les uns avec les autres. Eh oui, c'est pour ça. Allez, baissons la barre. Laissons le Seigneur mettre la barre là où il veut. Parce qu'il sait que là où il va, il sait ce que nous sommes capables de sauter, ce que nous sommes capables de franchir. Et puis n'ayons pas peur. Ça, c'est quelque chose que Dieu me dit. N'ayons pas peur des nouveautés. Nous avons tellement peur, nous sommes tellement bien dans nos prérequis, dans nos précarés, hein, que tout ce qui est en dehors de ce qu'on a l'habitude de vivre, ça ne vient pas de Dieu. Ok, j'étais comme ça. Hein. J'ai pas. Il y a 20 ans de ça, quand vous me parliez des gens qui tombaient, des gens qui rigolaient, les histoires d'huile dans les mains, etc., et les paillettes et tout, j'étais un anti tout ça. Et Dieu m'a juste poussé un peu. Ploum. Et j'y suis tombé dedans. Je ne le recherche pas particulièrement. Hein. Mais quand ça vient, ça vient. Ce n'est pas un problème. On a tellement peur. Et si on faisait davantage confiance à Dieu ? Plutôt que de dire ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Qui est qui pour dire ça ? Et je pense que Dieu vous a donné du discernement. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et vous savez très bien discerner ce qui est de lui et pas de lui. Mais ne rejetez pas tout en bloc. Vous faites de grosses erreurs. Et vous vous privez peut-être de la grâce de Dieu. Vous vous privez de ce que Dieu veut vous dire et veut vous donner. Alors baissez la barre. Et levons-nous. Je vous invite à vous lever. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour qui tu es. Simplement parce que dans nos vies, bien souvent, tu viens changer nos standards. Tu viens changer ce que nous croyons immuable. Merci parce que tu veux simplement nous rendre malléables à ta parole. Tu veux nous rendre malléables à l'action de ton esprit. Si nous venons ensemble ce matin, nous présenter devant toi, te demander pardon. Pardon parce que toutes les pressions qu'on a mises sur nos vies ont des fois tellement été des jougs lourds que cela nous a empêchés d'avancer, empêchés de nous réjouir en toi, parce que nous nous sentions tellement indignes et nous étions toujours incapables. Seigneur, je veux proclamer ce matin que c'est toi qui nous rends capables, que nous voulons simplement te dire que, ok, fais de nous ce que tu veux. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Je dois vous demander pardon en tant qu'orateur, en tant que prédicateur, pour tous les gens aussi que je représente et qui ont pu vous mettre des barres tellement hautes que vous avez été incapable de les franchir. Et ça vous a choqué, ça vous a attristé. Et vous vous êtes senti au fond de vous-même, quelque part, abusé, violé. Et le Seigneur insiste vraiment là-dessus ce matin. Je dois vous demander pardon, et je vous demande pardon, au nom de tous les hommes et les femmes, serviteurs et servantes, qui ont pu vous abuser. Et je prie aussi pour que maintenant le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur vraiment vous regarde d'un œil favorable, et ça, il le fait. Il pose vraiment sa main sur vous et vous dit, ok, va en paix, je te guéris. Je veux réparer, je veux cicatriser toutes les blessures qu'on a pu te contracter, qu'on a pu te faire à cause de ces exigences que ces hommes ou que ces femmes peut-être vivaient même pas. Que le Seigneur étende sa main sur chacun de vous. Je prie pour que le Saint-Esprit, celui qui s'est révélé comme étant le consolateur, soit ce matin le consolateur de vos vies. Qu'il vienne simplement que vous sentiez, ça c'est une réalité, que vous sentiez vraiment l'étreinte de Dieu autour de vous, afin qu'il se révèle vraiment comme étant le consolateur, celui qui vous prend dans ses bras, qui dit « Allez, c'est bon. Je te guéris. Je te guéris. » Et par là aussi, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est que nous sommes appelés à respecter l'autre et pas à abuser de l'autre, pas à le manipuler. Nous avons tellement de tendance à manipuler les gens. Et nous sommes appelés à ne pas les manipuler, à les respecter et à les aimer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œil favorable que tu poses sur chacun de nous. Merci parce que tu viens simplement nous toucher. Et si nous sommes découragés, tu nous permets simplement, par la grâce, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, de reprendre courage. Le Seigneur nous reprend et nous prend par la main. Et allez, viens. Allons plus loin. Allons plus loin. Ose sortir. Ça, c'est une parole pour certains d'entre vous. Ose sortir de tes sécurités. Ose sortir de tes prérequis. Ose sortir de ce que tu es sûr de devoir faire. Il y a certaines choses dans ta vie qui t'embarrassent, qui t'embêtent. Tu n'aimes pas faire ça. Le Seigneur aimerait tellement que tu oses les faire, même si cela t'embête. Parce que tout simplement, c'est une formation que Dieu veut pour toi afin d'accomplir sa volonté en toi et au travers de toi. Afin que Dieu puisse, je dirais, accomplir la destinée qu'il a mise sur ta vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour les bien-aimés de cette communauté. Merci pour qui ils sont. Je prie simplement que ton Saint-Esprit vienne encore plus les unir. Seigneur, je te bénis pour la capacité de tous ces jeunes qui sont là, l'amour qu'ils te portent, le désir qu'ils ont de venir à ton service. Seigneur, merci pour cette pépinière. Et je prie qu'au nom de Jésus, les uns et les autres soient protégés, que les uns et les autres soient couverts du sang de Jésus, que les uns et les autres puissent profiter du ministère des anges, qu'ils puissent être entourés de barrières de feu. Et je te rends grâce pour cela. Il y a une chose aussi que le Seigneur me montre, c'est concernant Michel et André, par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'ils sont. Ce sont vos pasteurs. Et la question que le Seigneur pose, c'est combien de temps par jour vous pensez à prier pour eux ? Je ne veux pas vous culpabiliser, mais comme ils sont richement et grassement payés, ils sont à votre service, c'est comme France Inter, 24 heures sur 24, ils sont en première ligne. Est-ce que vous pensez à prier pour eux ? Régulièrement ? Est-ce que vous pensez à les encourager ? C'est tellement facile de critiquer, de dire « André, il y en a marre d'avoir ton nom au milieu de la figure. » Ça, c'est facile. Mais est-ce que nous sommes prêts à les encourager ? Est-ce que nous sommes prêts à vraiment prier pour eux ? Est-ce que nous sommes prêts à donner du temps pour eux ? Il donne beaucoup de temps. Et le principe de l'ascenseur, ça monte et ça descend. Si l'ascenseur ne fait que monter, elle est coincée quelque part. Et à la fin, ça ne marche plus. Vous savez, je parle aussi en tant que pasteur. J'ai été pasteur de paroisse, aujourd'hui je ne le suis plus. C'est mon appel. Mais c'est épuisant. Alors, je suis vraiment à l'aise de dire ça parce que le Seigneur me le montre. Et je vous assure que mon séjour n'a pas été sponsorisé par Kleenex. Donc, ils n'ont pas pleuré dans mes bras tout le week-end. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur me demande et je vous interpelle là-dessus. N'oubliez pas à prier pour vos conducteurs. Que ce soit les pasteurs, soit la pasteur de la jeunesse, et que ce soit aussi les responsables de l'Église. Le conseil de direction et toute l'organisation qui est la vôtre. Ces hommes, ces femmes sont au service de Dieu, ils sont aussi à votre service, mais ils sont là pour glorifier Dieu. Et vous êtes simplement des Hur et des Aaron, juste là appelés à leur tenir les bras, afin qu'ils ne se fatiguent pas. Je ne faillote pas, hein, mais je le pense vraiment, parce que Dieu me le dit. Amen.